savez, l'offense est comme cette petite peau spirituelle qui nous empêche de vraiment aimer les autres. Et quand nous avons le nom, pardon, ou... J'essaie de ne pas parler du nom, pardon, ce soir. Je veux parler de ce qui, selon moi, le précède. Je veux parler de ces petites peaux que je crois que nous avons et auxquelles nous ne prêtons pas attention, et qui ensuite deviennent de grands problèmes dans notre vie. Et elles affectent notre relation avec Dieu, elles affectent nos prières, elles affectent notre adoration. Mais parce que nous ne traitons pas les petits trucs, qui reconnaît que parfois nous ne les traitons pas car nous croyons qu'ils ne sont pas importants? Tu m'as offensé. Ce n'est pas ma faute que je sois offensé. Tu m'as offensé. Mais voici ce qu'il y a. Chacun d'entre nous devrait prendre la responsabilité de sa vie. C'est ma responsabilité devant Dieu de recevoir sa grâce pour ne pas être offensé. Ça m'est égal si vous avez essayé de me blesser, et même si vous l'avez fait exprès, je dois être responsable pour ne pas prendre ça. Et ce que nous faisons, c'est que nous reprochons ce que nous ressentons aux autres. Je suis offensé, mais toi tu m'as offensé. Je ne dois pas changer, tu dois changer. Tu dois m'aider à me sentir bien. Et je ne me fâcherai jamais. Avez-vous remarqué que tout ce que les gens faisaient ne dérangeait pas du tout Jésus? Non, mais ils pouvaient le rejeter. Ça lui était égal. Ils l'ont renié, abusé de lui, et se sont endormis quand il avait besoin d'eux pour prier avec lui pour un moment. Cela ne le dérangeait jamais. Une simple raison. Il savait d'où il venait. Il savait qui il était et il savait où il allait. Et quand chaque personne sur la planète peut apprendre ça, la fête du diable sera terminée. Amen. Sachez qui vous êtes en Christ. C'est la chose la plus importante que vous puissiez savoir. Votre valeur ne devrait pas être déterminée par la manière dont quelqu'un vous a traité. Allez, quelqu'un a besoin d'écouter ça? Votre valeur ne devrait pas être déterminée par la manière dont quelqu'un vous a traité. Et encore une fois, votre valeur ne devrait pas être déterminée par la manière dont quelqu'un d'autre vous a traité. Voyons Marc 11, 22, un verset que vous connaissez mais qui est néanmoins intéressant à étudier. Juste une petite chose rapide ici sur la manière dont tous ces trucs de la colère et de l'offense affectent nos prières. Si vous allez prier, priez des prières qui puissent être exaucées. Vous êtes d'accord là-dessus? Le Seigneur m'a mis sur le cœur au début de cette année un message et je l'ai déjà prêché. Et je ne peux pas le prêcher maintenant, mais c'est ce qui me pesait sur le cœur. Si tu vas te plaindre de quelque chose, Joyce, ne prie pas à son sujet. Bon ben, d'accord. Dieu n'est pas responsable du département des plaintes. Il répond aux prières et non pas aux plaintes. Et si je prie et puis je me plains, je dis essentiellement, Dieu ne m'écoute pas et il ne va rien faire là-dessus, je ferai donc aussi bien de continuer à me plaindre. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, nous devons retrouver la puissance du mot merci dans nos vies. Amen. Verset 22, et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu constamment. En vérité, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Amen. » C'est pourquoi je vous dis, cela va de mieux en mieux. Tout ce que vous demandez en priant, croyez et soyez assurés que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Et quand vous êtes debout en prière... Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez de petites peaux spirituelles, pardonnez, abandonnez, laissez tomber, oubliez. Répétons. Et quand vous êtes debout en prière... Si vous avez quelque chose contre quelqu'un d'autre, votre mécanicien, l'épicerie, votre patron, votre collègue, votre voisin, quelqu'un dans votre famille, ne soyez pas en colère contre le gouvernement. Ça ne va pas le changer. Au cas où quelqu'un se sent un peu lent ce soir, laissez-moi être clair. Si nous voulons que les versets 22, 23, 24 et 25 marchent, nous devons faire le verset 26. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, très simple, il dit « abandonnez ». Laissez tomber, éloignez-vous-en. Je ne veux pas toucher ça. Les champions refusent d'être offensés. Ils ne vivront pas dans l'offense. David, le jeune berger qui est devenu roi, avait de nombreuses opportunités d'être offensé, à commencer par le fait que quand Samuel fut envoyé à la maison de Jessé pour oindre un nouveau roi, 7 frères sont passés devant lui. Ce sera sûrement Eliab l'aîné, il ne convient pas. Ce sera sûrement Abinadab, il ne convient pas. Ce sera sûrement Shammah, il ne convient pas. 7 sont passés devant lui. Le prophète a dit, « Aucun d'eux ne convient. Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants ?» Eh bien si, il y a David, le jeune berger. Il est dans le champ. Ils n'ont même pas pris la peine de présenter David pour être considéré. Oh, ce que nous nous offensons quand nous ne sommes pas considérés. Quand personne ne nous considère, personne ne considère nos sentiments. Personne ne pense jamais à nous inviter. Personne ne nous inclut. Personne ne se soucie de ce que nous ressentons. Dès le début et avant même de recevoir l'onction de Dieu, allez, il a été testé. Il a été testé. Et je crois que c'est drôle à se mettre par terre et à donner des coups de pied en l'air. Quand le prophète l'a oint, il a fait ça devant ses 7 frères. Lui, Dieu ne voit pas comme voit l'homme. Dieu voit le cœur. Faites attention quand vous émettez des opinions sur les personnes que Dieu utilise. Allez maintenant. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça silencieusement? Pourquoi le prophète n'a pas pris David quelque part en privé pour l'oindre et pour dire « Hé, un jour tu seras roi. » Ne raconte à personne. Non, il l'a fait devant les 7 frères. Oh, mon Dieu, je parie qu'il bouillonnait. Eh bien, pour qui se prend-il? Et ceci a été prouvé un peu plus tard, dans 1 Samuel chapitre 17, quand David a voulu aller voir la bataille contre Goliath parce qu'il ne comprenait absolument pas pourquoi aucun de ses soldats n'offrait de combattre Goliath. Il ne comprenait pas parce qu'il savait que Dieu combattrait avec lui. Il le savait. Vous voyez, il a été oint pour être roi parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, il savait qui il était et qu'il pouvait lui faire confiance. Pourquoi il connaissait Dieu? Parce qu'il a été loin des gens, loin du monde, dans le champ tout seul, avec les brebis, assez longtemps pour apprendre à bien connaître Dieu. Ne vous plaignez jamais quand vous êtes seul. Considérez-le comme un temps pour connaître Dieu. Amen. Donc, David voulait aller voir la bataille et il parlait à son frère aîné Eliab. Et Eliab a dit, « Hein, à qui as-tu laissé ce peu de brebis dont tu es chargé ?» Insupportable gros malin. Qu'essayait-il de faire? Il essayait de dénigrer David. Il ne voulait pas qu'il croie qu'il a la moindre valeur parce qu'il ne voulait pas qu'il aille faire quelque chose qui pourrait avoir l'air important. Eh bien, à qui as-tu laissé ce peu de brebis? Ne laissez personne vous dénigrer. Ne laissez personne vous sous-estimer ou vous rapetisser. Oh, tu veux dire que tu n'es qu'une mère au foyer? Non, je suis une mère au foyer. J'élève des géants pour Dieu. Oh, est-ce que tu veux dire que tu nettoies les maisons des gens? Non, je suis un serviteur du Dieu vivant. Dieu m'a donné le don d'aider les gens et j'aime faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Ne laissez jamais les gens vous sous-estimer ou vous rapetisser parce que vous ne faites pas quelque chose que le monde considère comme grand, car Dieu ne voit pas comme voit le monde. La seule chose dont Dieu se soucie, c'est « Est-ce que vous jouez le rôle que Dieu vous a demandé de jouer ?» Si vous jouez le rôle que Dieu vous a demandé de jouer, vous êtes sur un pied d'égalité avec n'importe qui fait n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. David était en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il jouait le rôle que Dieu voulait qu'il joue et il a été choisi pour être roi. Si vous jouez le rôle que Dieu veut que vous jouiez, on ne sait jamais quand Dieu peut vous désigner pour quelque chose de plus grand. Amen. Donc, de toute façon, Eliab, à qui tu as laissé ce peu de brebis? Je connais ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu ici. Et 1 Samuel 16 dit, David regarda Eliab et dit, « Qu'ai-je fait maintenant ?» Vous savez ce que cela me dit? Il était habitué à ça. Il était habitué à ses frères qui le taquinaient tout le temps et lui rendaient la vie impossible. Vous savez, parfois, les frères ou sœurs aînés en veulent au Benjamin parce qu'il a tendance à être un peu plus chouchouté et n'endure pas ce qu'ont enduré les aînés. « Eh bien, tu as tout eu facilement et j'ai dû travailler pour avoir tout ce que j'ai. » C'est toujours le cas dans l'ordre des naissances, mes chers. Donc, allez-y, foncez, vous savez. Quand le bébé arrive, maman et papa ont un peu plus d'argent. Ils ont appris un peu plus, vous savez. C'est le dernier bébé qu'ils vont avoir. Donc, David était le bébé. À qui as-tu laissé ce peu de brebis? Et je connais la méchanceté de ton cœur. David a dit, qu'ai-je fait maintenant? Et puis j'aime ça, j'aime ça. Le verset d'après dit, et David se détourna d'Eliab. C'est très puissant. Les champions refusent de s'offenser. Il a refusé de s'offenser. Il a été testé et testé encore une fois. Allez-vous faire quelque chose pour Dieu et ne jamais être testé? Beaucoup de situations dans lesquelles vous vous retrouvez et que vous trouvez si démoniaques, Dieu vous a mis au milieu de ces situations pour voir si vous avez ce qu'il faut pour passer au niveau suivant. Les champions refusent d'être offensé. Il ne s'offense jamais. La Bible dit dans Matthieu 5, 23 et 24, « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande à Dieu. » Dieu ne veut pas que nous l'adorions ou que nous essayons de lui donner nos actes de service ou n'importe quoi d'autre si nous allons venir avec des offenses dans nos cœurs. Parlons un instant de couvrir les offenses. La Bible dit dans 1 Pierre que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4:8. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais qu'est-ce que cela signifie? Couvrir veut dire dissimuler, fermer, cacher ou garder un secret. Genèse 9:22. Maintenant, Noé, après avoir accosté l'arche et en être sorti, a planté une vigne et en a bu le vin et s'est enivré et s'est trouvé nu au milieu de sa tente. La Bible est très graphique, vous savez. Verset 21. « Et il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. » Et Cham, père de Canaan, il était un des fils de Noé, regarda et vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères qui étaient au dehors. Papa est ivre là-dedans et il est tout nu. Venez voir ça. Alors Sem et Japhet, j'aime ça, prirent un manteau, le placèrent sur leurs épaules à tous deux et, marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Or, sa nudité représente son méfait. Donc, un fils l'a dévoilé en le racontant, deux fils sont entrés et l'ont couvert. Si vous continuez à lire ça, le fils qui l'a raconté et l'a dévoilé et qui est allé raconter aux autres a reçu une malédiction. Les deux fils qui ont couvert leur père ont été individuellement bénis par leur père. Nous pouvons recevoir une bénédiction de Dieu si nous sommes disposés à ne pas raconter les mauvaises choses que nous voyons les autres faire, mais nous prions pour eux, nous fermons nos bouches et couvrons leur offense. Ça alors, je vais prier donc pour moi-même maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour que tu me pardonnes toutes les fois où j'ai raconté à quelqu'un quelque chose qui a dévoilé la faiblesse de quelqu'un d'autre. Et je te prie de me pardonner complètement et me donner un nouveau départ. Maintenant, qui a besoin de cette prière? Père, je prie pour nous tous que tu nous pardonnes à tous d'avoir dévoilé les faiblesses de nos frères et sœurs, d'avoir raconté leurs secrets, d'être allé à d'autres personnes pour leur raconter ce qu'ils ont fait. Pardonne-nous, Dieu. Aide-nous à ne pas faire ça à l'avenir. Et donne-nous un nouveau départ. Amen. Personne ne doit être condamné. Nous avons un nouveau départ. Mais c'est important. Nous prenons le plus grand plaisir pervers à raconter les trucs, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne croirais pas. Tu ne croirais vraiment pas. Peux-tu croire ça? Oh, je n'arrive pas à le croire. Tu ne vas pas croire. Et à chaque fois que quelqu'un raconte quelque chose, une petite chose y est ajoutée. Et quand ça passe par 20 personnes, mince alors. L'amour couvre une multitude de péchés. Voyons Matthieu 18, 15. Ça va tout le monde? C'est si important, j'espère que quelqu'un le comprendra. Matthieu vous dit à tous comment traiter avec les personnes qui vous ont offensé ou quand il y a quelque chose entre vous et eux qui doit être réglé. Et il dit, si ton frère pêche contre toi, va le trouver et fais-lui tes reproches à seul en privé. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Il y a donc un modèle à suivre. Mais franchement et sincèrement, la plupart du temps, la plupart des gens vont raconter aux autres. Ils ne vont jamais aux frères concernés. Mais ils racontent à toutes sortes d'autres personnes. Je me demande combien de problèmes pourraient être évités. Si nous allions à la personne et nous disions, tu sais quoi? Ça m'embête, nous devons donc en parler. Peut-être que je me trompe complètement, tu n'as même pas... Peut-être que tu ne voulais rien dire par là, mais le diable n'arrête pas de m'agacer avec ça. J'aimerais donc en parler. Et je dirais que la plupart du temps, les choses pourraient être réglées là. Mais nous causons tellement de problèmes quand nous continuons à aller chez d'autres personnes, à leur raconter. Et ce qu'il y a, c'est que personne ne se sente condamné. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'important, c'est juste que nous puissions nous élever et que nous puissions jouir de la vie merveilleuse que Jésus a prévue pour nous. Mince alors, je veux porter une forte onction sur ma vie. Je veux toutes les bénédictions que je peux avoir. Nous avons besoin de plus en plus de la grâce de Dieu, de sa grâce imméritée, de la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à gérer les situations avec les autres d'une manière biblique et pieuse et non seulement d'une manière charnelle. Et le seul moyen que je connaisse pour aider les gens, c'est d'affronter le problème et de dire « Hey, si vous ne faites pas ça, c'est merveilleux. Oui, mais si vous le faites, ou si vous êtes même tenté de le faire, alors prenez cette parole de vérité, ne partez pas condamné, mais dites « Dieu, j'avais besoin de ça. Je suis reconnaissante que tu en aies parlé, car je ne savais pas que je le faisais. » Combien de fois nous ne le savons même pas? Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous savent, vous qui êtes assis là et ceux qui nous regardent à la télé, vous pouvez lever votre main aussi et avoir un avantage, personne ne va vous voir. Nous allons voir ces gens. Combien d'entre vous diraient que là où vous êtes assis en ce moment, que vous êtes entré ici ce soir avec une offense dans votre cœur, quelque part, mais que vous ne voyez pas ou vous ne compreniez pas quel problème c'était avant d'écouter ce que j'ai dit. Voyons vos mains. Bon, eh bien, vous savez quoi? C'est autant que je sache, environ 98% des gens. C'est pourquoi nous devons prêcher ce genre de choses. Parce que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, pour que nous puissions avoir et jouir de notre vie et l'avoir abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Et j'aime être affrontée par la vérité. J'aime vraiment une parole qui m'aide à m'améliorer. J'aime vraiment une parole qui me pousse vers un niveau plus haut. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour n'est pas susceptible. L'amour n'est pas irritable. L'amour n'est pas rancunier. Les gens facilement offensés sont égoïstes. Car quand les choses n'arrivent pas comme ils veulent, ils s'offensent. Les gens facilement offensés manquent d'assurance. Leur réservoir d'amour est vide et quand ça ne marche pas comme ils veulent, ils se sentent rejetés. Les gens facilement offensés sont négatifs. Ils croient toujours le pire quand ils devraient croire le meilleur. Les gens facilement offensés sont une cible facile pour Satan. Il appâte le piège et il morde à l'appât à chaque fois. Les gens facilement offensés sont malheureux car être offensé vous rend plus malheureux que la personne ou la chose qui vous a offensé. Être facilement offensé entrave le plan de Dieu pour la vie de cette personne. Elle ne peut pas aller de l'avant avec de mauvaises choses dans son cœur. Elle trébuche et elle chute. Les gens qui sont facilement offensés sont imprudents. Chaque fois que Dieu nous dit dans sa parole de ne pas faire quelque chose et que nous le faisons, c'est imprudent. Les gens facilement offensés ne sont pas libres parce que quiconque est en colère n'est pas libre. Si nous sommes en colère, nous ne sommes pas libres. Cette colère nous contrôle. Nous payons un prix élevé pour quelque chose d'inutile, n'est-ce pas? Dites tous, l'offense est inutile. Les champions refusent d'être offensés. Vous savez, c'est vraiment important que nous apprenions à reconnaître et à résister à la tentation de nous offenser si nous voulons avoir la paix, la joie et la puissance de Dieu dans nos vies. N'oubliez pas, si nous nous permettons d'être offensés, nous entravons le plan de Dieu pour nous dans tous les domaines de la vie.